Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, chaire Droit, Culture et Société de la Rome antique.
Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus, comme toujours. Il existe une institution qui horrifiait les Romains eux-mêmes, avec une attitude que nous qualifierions aujourd'hui de « cancel culture », culture de l'annulation. Il a critiqué ou tenté de la minimiser. Il s'agit de la « manus injectio ». Donc vous allez re-entendre ce mot plusieurs fois. En traduction littérale, la main mise. La manus injectio était une procédure par laquelle un débiteur insolvable était soumis à l'échéance ou au pouvoir du créancier, qui le gardait dans un état d'emprisonnement pouvant se terminer par le partage du corps du débiteur entre ses créanciers. Si la capitis diminutio, la perte de la tête dont nous avons parlé la semaine dernière, était une métaphore, dans le cas qui nous occupera aujourd'hui, les corps du débiteur étaient réellement mis en pièces. Nous connaissons la mainmise par diverses sources, ce qui n'est pas étonnant. Le macabre attire toujours, du grand guignol au cinéma gore. Moi aussi, au fond, je suis en train d'en parler. L'une des sources anciennes les plus importantes sur la manus injectio, la main mise, est le dialogue mis en scène par Olugel entre un philosophe et un juriste. Le philosophe, ou l'on devrait plutôt dire sophiste, s'appelle Favorinus, originaire d'Arles. Le nom du philosophe, du juriste est Sextus Cecilius Africanus, donc probablement d'origine africaine. Bref, deux provinciaux qui ont fait fortune à Rome et qui, un jour, vers 130 après Jésus-Christ, se retrouvent tôt le matin à l'entrée du palais impérial sur le Palatin, où ils attendent d'être admis à la présence de l'empereur Adrien pour le saluer. Saluer est un acte de révérence, même un peu servile, disons-le, typiquement courtisan, mais y être admis est déjà considéré un privilège. Parfois, il faut le dire, l'humiliation est acceptée comme un signe de distinction. Les voici donc Favorinus, le philosophe, et Africanus, le juriste, et avec eux Olugel, le curieux je sais tout, qui attendent ensemble le moment de saluer Adrien. Entre gens cultivés, vous savez, la conversation peut déboucher sur des sujets inattendus, et Favorinus, le philosophe, s'est mis à critiquer la loi des 12 tables. Ce qui fasse un juriste comme Africanus revient à critiquer son équipe favorite devant un supporter. Elles sont souvent très obscures, dit le philosophe, cruelles quelquefois, ou par un défaut contraire, trop douces. Et pour le démontrer, Favorinus passe alors en revue une série de normes de 12 tables, pointant plusieurs institutions bizarres et répréhensibles, jusqu'à ce qu'il arrive à la mainmise et aux normes sur le partage du corps du débiteur, qui représenterait, à son avis, ce qu'il y a de plus choquant dans les 12 tables et par conséquent dans la mentalité et les pratiques des Romains du 5e siècle après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ. Quant à cette loi qui permet couper de se répartir les corps de débiteurs qui leur a été adjugé en commun par le magistrat, je m'abstiens d'en parler, dit Favorinus, qui souhaite montrer, déjà par ce refus d'en parler, l'horreur que cette loi lui inspire. Mais bien sûr, il continue de souffler sur les braises. Que peut-on voir de plus barbare, enchaîne-t-il, de plus révoltant que l'action de se partager les lambeaux du corps d'un débiteur pauvre, comme on divise aujourd'hui les biens du débiteur pour les vendre aux enchères? Le texte est difficile à rendre en français. Il joue sur le verbe distraire, qui signifie à la fois vendre les biens du défaillant, dans la procédure plus moderne, en cas de faillite, mais aussi déchirer le corps du débiteur dans la loi des 12 tables. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Africanus, le juriste, commence à répondre au philosophe. D'abord, garde-toi, Favorinus, de mépriser ces lois des temps anciens du fait que le peuple romain a cessé d'en appliquer la plupart, car un des arguments de Favorinus était les Romains eux-mêmes ont dû s'éloigner des lois des 12 tables à cause des défauts immanents. Et donc, l'argument de l'abrogation ou de la désuétude était utilisé comme indicateur de, disons, de la mauvaise qualité de la loi des 12 tables. Garde-toi, tu n'ignores pas que pour être efficace, les lois doivent changer et se modifier selon les mœurs du temps, la forme du gouvernement, les intérêts du moment et les genres ou le degré du mal à guérir. Elles ne sont donc pas immuables, elles sont comme le ciel et la mer, sujettes à des variations et à des vicissitudes. Alors, si nous étions sûrs, ce qui n'est pas le cas, que ces mots sont bien ceux d'Africanus et non une invention d'Olugel, donc je le répète, il s'agit d'un dialogue à un moment donné sur le Palatin dans l'attente d'entrer saluer Adrien. Donc il nous présente Olugel ce dialogue comme réellement, historiquement, qui a eu lieu de façon réelle, mais on ne peut pas aussi négliger la possibilité qu'il y ait une forte réélaboration, à la limite une invention de la part d'Olugel. Donc, si nous étions sûrs que ces mots sont bien ceux d'Africanus, et non une invention d'Olugel, nous aurions ici un bel exemple d'une similitude proposée par un juriste qui compare, comme vous venez de le lire avec moi, la configuration changeante des forces et des intérêts qui déterminent les normes juridiques à l'aspect changeant de la mer et des cieux. Et quant au fond, il s'agit d'une considération un peu générale, mais intéressante, car le juriste veut ainsi défendre non pas tant les 12 tables que le droit. Il évoque pour cela un concept qui est, après tout, l'étendard de tout historien du droit. Il faut comprendre un système juridique par rapport à son époque et tenter d'établir des liens entre la société, la culture et les droits. Après cette considération de fond, Africanus s'adonne à réfuter les une après les autres, toutes les critiques que Favorinus avait adressées aux différentes normes des 12 tables, et en arrive à la dernière institution qui avait été ciblée par Favorinus, la manus iniectio, justement, la mainmise, dont Africanus, avant de la défendre, décrit le déroulement. Donc, vous voyez, l'historien, aujourd'hui, peut lire ce texte sous plusieurs perspectives, c'est-à-dire en tant qu'œuvre littéraire de Olugel, en tant que débat entre un juriste et un philosophe, mais aussi comme un document du déroulé de la loi de la manus iniectio. Donc il y a toujours dans les textes la possibilité de poser plusieurs questions. Seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est poser des questions au texte qui ne peuvent pas être auxquelles on ne peut pas répondre par le biais de ces textes, c'est-à-dire poser des questions qui n'ont pas de réponse dans les textes, parce que normalement, lorsqu'on adopte cette démarche, c'est qu'on a, nous, déjà la réponse, et donc on fait semblant de demander au texte, mais à la fin, ce qui sort, c'est la réponse que nous avions déjà auparavant. Donc il faut toujours que les questions soient, en adéquation avec le texte qu'on interprète. Alors, avant de répondre, ça fait l'intérêt du point de vue de la documentation comme source historique, Africanus, avant de répondre à la critique, explique, décrit les déroulements de la manus iniectio. Il dit les débiteurs qui avaient reconnu la dette ou avaient été condamnés avaient 30 jours pour chercher la somme et s'en acquitter. Donc c'est pas que le débiteur était à l'échéance tout de suite, visé par cette procédure, mais il fallait qu'il y ait d'abord une reconnaissance de la dette, c'est une première possibilité, ou une condamnation. Donc cette procédure vient après soit la confession, soit la condamnation. Donc ils avaient 30 jours pour chercher la somme et s'en acquitter. Le délai expirait sans paiement, on appelait les débiteurs à comparaître devant le prêteur qui les a jugés à celui qui avait obtenu un jugement contre eux. Ils étaient liés par un nerf ou par des chaînes. Africanus présente donc la première partie de la procédure par mainmise, mais il ne se contente pas de la résumer. Pour plus de précision, il cite aussi les textes de la loi des 12 tables. On parle toujours de la loi des 12 tables, mais nous n'avons pas le texte en tant que tel. Donc, si nous pouvons en parler de façon plus ou moins précise, c'est parce qu'il y a, s'il y a, des références dans les textes littéraires romains au contenu de la loi des 12 tables. Et ici, c'est particulièrement précieux parce qu'il n'évoque pas seulement le contenu, mais aussi le texte lui-même, les mots eux-mêmes de la loi des 12 tables. Voici, je crois, le texte de la loi, que celui qui reconnaît la dette ou est condamné légalement ait les 30 jours légaux. Après quoi, il y aura la mainmise. Qu'on l'amène devant le magistrat, s'il n'exécute pas la condamnation ou si personne ne se porte légalement caution pour lui, que le créancier le conduise chez soi, lié avec une courroie ou avec des chaînes pesant 15 livres au moins ou plus, si le créancier le veut. Que le débiteur vive, s'il veut, à ses frais. Donc il est emprisonné, il peut vivre à ses frais. S'il ne le veut pas, que celui qui le tient dans les fers donne une livre de farine par jour, qu'il donne plus s'il veut. Alors, nous avons compris que le débiteur était mis dans les liens, une détention extrêmement dure, dans la maison du créancier. Mais quel était le but de cet emprisonnement ? Africanus poursuit son récit. Pendant cette période, on avait encore le droit de s'enrager à l'amiable et, à défaut d'arrangement, le débiteur était retenu dans les fers pendant 60 jours. Dans cet intervalle, il était amené devant le tribunal du prêteur et chaque fois, on rappelait à haute voix le montant de la condamnation. Alors, jusqu'ici, la procédure décrite par Africanus était sans aucun doute dure, mais encore plus ou moins acceptable, c'est son issue qui est affreuse. Les troisièmes jours de marché, donc il y avait trois occasions, lorsqu'il y avait un rassemblement de gens, d'annoncer haute voix la dette, pour voir si quelqu'un pensait remplir l'obligation. Donc, à la troisième séance, le troisième jour de marché, le débiteur était puni de mort ou envoyé à l'étranger, au-delà du Tibre, pour être vendu. Or, cette peine de mort, dont le but était, je l'ai déjà dit, d'assurer le respect dû à la foi promise, les législateurs, cruels à dessein, en avaient fait un objet d'horreur et d'épouvante. Si la condamnation avait été prononcée au profit de plusieurs créanciers, ceux-ci avaient le droit de couper son corps à morceaux et de se le partager. Je citerai les termes même de la loi, pour que tu, Favorinus, son adversaire, ne croie pas que je recule devant leur odieuse cruauté le troisième jour de marché, qu'ils le coupent en partie. S'ils coupent trop ou trop peu, il n'y aura pas fraude. Quelqu'un va se souvenir de Shakespeare. Le juriste Africanus en arrive à la fin de son récit, dans lequel il a alterné sa propre description avec les mots de la loi des 12 tables, sans rien taire. Il s'agit maintenant de répondre à la critique du philosophe Favorinus, qui avait jugé ce dispositif comme un exemple de barbarie. Africanus ne cherche pas à le cacher, mais utilise deux arguments pour désamorcer la critique, quoi des plus atroces, quoi des plus barbares. Mais n'est-il pas évident qu'on a entouré la peine de cet appareil de cruauté précisément pour n'avoir jamais à y recourir? La sévérité de la répression est souvent une leçon de conduite, un moyen de discipline morale, nous aussi, qui ne lisons pas souvent les livres de ce genre, nous connaissons tous l'histoire de Metus Fufecius, cet Albin, pour avoir violé perfidement le traité conclu avec le roi de Rome, fut attaché à deux chars qui partirent en sens contraire et l'écartelèrent. Supplice inouï, supplice affreux. Qui le nie? Mais que dit le plus élégant des poètes, Virgile? C'était à toi, Albin, de tenir ta parole. Nous l'avons compris, le juriste, pour contrer les critiques du philosophe, minimise la cruauté des 12 tables par deux arguments. Premier, que la manus injectio était intentionnellement établie avec une telle cruauté que cela ne pouvait que dissuader les gens de ne pas payer leurs dettes, à tel point cruel qu'elle n'a jamais été appliquée. Je dois dire que c'est l'argument douteux utilisé encore aujourd'hui par ceux qui défendent la peine de mort. Mais finalement, Africanus serait aussi prêt à voir appliquer une peine si lourde, car, c'est son deuxième argument, la manus injectio protège la fides, la loyauté, le respect des engagements que les débiteurs insolvables brisent. Une valeur profondément romaine, et pour la protéger, tous les moyens sont bons. Et les vers qui concluent les discours tirés de l'Énéide les confirment avec la puissance de la brièveté, mais tout ça a été écartelé, oui, c'est terrible, mais c'est de sa faute, c'était à toi, homme d'Albe, tu aurais dû tenir ta parole. Alors, Metus n'était pas un débiteur au sens du droit privé, mais un traître qui a enfreint la fides du traité, et son destin est d'être mis en pièces lui aussi. Ça va être enregistré. Mais la loyauté doit régir aussi les engagements entre particuliers. Alors, c'est presque comme si, par ces deux formes de supplice par déchirement, l'on disait qu'un homme doit être inébranlable dans sa loyauté. Alors, la conversation érudite s'achève et Olugel reprend la parole qu'il avait laissée à Africanus et à Favorinus, les deux protagonistes. Cette dissertation que j'abrège de Sextus Cecilius, c'est le dernier à prendre la parole, obtint l'approbation et les éloges de tous les assistants et de Favorinus lui-même, mais on vint nous annoncer que le moment était venu de saluer César et nous nous séparâmes. Alors, ce texte mériterait un commentaire beaucoup plus fouillé. Il était considéré comme l'un des principaux documents de la conscience historique des juristes romains. Africanus y réfléchit au passé juridique de Rome et y exprime plusieurs observations remarquables, notamment que le droit varie en raison des coutumes et des valeurs des peuples, ce qui est l'idée qui sous-entend le traité sur l'esprit des lois de Montesquieu, et que la formulation des lois dépend de l'histoire et des variations de la langue. Il se peut que Lugel ait vraiment assisté à ces dialogues auprès du palais d'Adrien, mais si je dois donner mon impression, il me semble qu'il s'agit d'une sorte d'exercice scolaire, l'équivalent d'une déclamation, que nous avons déjà rencontré dans nos cours, ou plutôt d'une double déclamation, en faveur et contre, sur les thèmes, les 12 tables constituent, elles ou non, une législation juste. Les deux points de vue semblent choisis à dessein pour présenter les raisons du philosophe et celle de la philosophie et celle du droit, et même le schéma, les points abordés par Favorinus est ensuite repris et réfuté un par un, par Africanus, font penser à une dispute rhétorique. Alors, dialogue réel ou dispute imaginaire, en tout cas, il n'y a pas de doute, ces idées devaient circuler à Rome au IIe siècle après Jésus-Christ, et les 12 tables demeuraient, 6 siècles après leur promulgation, un point de référence. Pour nous, ce récit d'Olugel est particulièrement utile pour connaître la manus injection. Rappelons-en les grandes lignes, le débiteur condamné à payer avait 30 jours pour s'exécuter. S'il était défaillant, il était convoqué devant le prêteur par son adversaire. Le prêteur, si personne ne se présentait pour payer à la place du débiteur ou pour le soustraire à la procédure en en contestant le fondement, l'adjugeait au créancier. Le verbe utilisé était addicere, donc adjuger au créancier. Le verbe utilisé par le prêteur était addicere, donc le débiteur était addictus. Les créanciers amenaient le débiteur addictus, l'amenaient chez lui, secum ducere. Le débiteur y restait enchaîné pendant la durée des 3 marchés où les créanciers annonçaient la dette dans l'espoir que quelqu'un le rachèterait. Après les 3e marchés, le créancier vendait les débiteurs comme esclaves. Cela aurait certainement provoqué une capitis diminutio, perte de la tête, ou bien il le tuait et les corps du débiteur étaient partagés entre les différents créanciers s'il y en avait plusieurs. Or, disons-le en passant, on comprend bien pourquoi l'obligation porte ce nom. Car à l'origine, le débiteur était véritablement lié par le créancier. Ce que nous concevons comme un lien juridique métaphorique était concret dans la manus injection. Le discours d'Africanus a montré clairement que ce mécanisme comportait des aspects considérés comme choquants. Si quelque chose choque, cela signifie qu'il y a eu entre-temps une évolution. Mais soyons clairs, pas tant que ça, car à l'époque d'Adrien, si la division du corps n'existait pas, l'emprisonnement du débiteur, cela continuait. En effet, les prêteurs, dans son édit, l'édit du prêteur, c'était un texte qui était exposé en public, affiché, où le prêteur annonçait quelles étaient les actions, quels étaient les remèdes, les voies de recours qu'il aurait accordée aux particuliers au cas de litige. Donc c'était vraiment un programme de juridiction. Donc dans cet édit, il y avait aussi une réglementation de la phase de l'exécution. Et même si ce n'était pas celle des 12 tables, la procédure de l'édit du prêteur suivait pas à pas celle des 12 tables pour s'en détacher seulement au dernier moment. Alors, on peut voir, les débiteurs. Alors, on voit très bien que le créancier amenait son débiteur devant le prêteur, donc dans la nouvelle procédure, expliciter la cause de la dette, c'est-à-dire qu'il y avait eu un aveu du débiteur ou une condamnation à son encontre. Les prêteurs accordaient au créancier la permission d'amener le débiteur dans sa maison. Il était enchaîné, encore à l'époque d'Olugel, de Gaius, par exemple, qui était plus ou moins contemporain d'Olugel. Et le créancier devait lui fournir de la nourriture, ici également, et une paillasse pour dormir, tout comme l'époque des 12 tables. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux 12 tables, donc 6 siècles avant? Seulement la faim, le débiteur qui ne payait pas n'était finalement pas vendu comme esclave après 3 marchés, et son corps n'était pas mis en pièces. À quoi servait alors l'emprisonnement dans le cadre de la procédure accordée par le prêteur? À faire pression sur les parents et les amis pour qu'ils payent. Donc un progrès par rapport à la situation précédente, mais un progrès limité. Le corps du débiteur vivant comme objet de pression. Si jamais la biopolitique, si jamais j'aimais la biopolitique, je dirais qu'il s'agit d'un cas manifeste de réduction de l'homme à son corps. Mais je préfère rester dans l'Antiquité et à l'écoute des sources, et c'est un passage de Saint Ambroise qui va nous accompagner pour le reste de notre séance. Il appartient à un commentaire d'un livre de la Bible, le livre de Tobie. Vous savez tous, Saint Ambroise est né à Trèves, où son père, haut fonctionnaire romain, était en poste. Lui-même fut d'abord avocat, pour s'engager ensuite dans une carrière politique dont le succès l'a amené à être consacré évêque de Milan en 374, une époque où les évêques jouaient aussi un important rôle civique qui a laissé beaucoup de traces qui ont été commentées dans le livre de notre collègue Patrick Boucheron. Alors, parmi les nombreuses œuvres de Saint Ambroise, on remarque quelques écrits exégétiques sur l'Ancien Testament qui trouvent très souvent leur origine dans les homélies passionné, qui prononçait. Parmi ces textes exégétiques figure le De Tobia, qui fut composé par Ambroise vers 389 après Jésus-Christ. Donc à peu près 250 ans après le dialogue entre Africanus et Favorinus. Alors, le livre de Tobie, dont la transmission et l'appartenance à l'Ancien Testament sont par ailleurs controversées, narre l'histoire d'un jeune Israélite envoyé par son père recouvrer une dette d'argent à Médie auprès de leur parent Gabaël, où il est accompagné incognito par l'archange Gabriel. Ce sera justement l'archange qui demandera enfin la restitution du prêt sans exiger les intérêts. Pas de commentaire sur le Perugino. Ambroise s'inspire de cet épisode pour exprimer dans son commentaire un jugement très sévère sur l'usure. Je n'ai pas le temps de développer ici la question de l'attitude de l'Église à l'égard de l'usure, ni de brosser un tableau sur les conditions socio-économiques au IVe siècle de l'Empire. Je dirais seulement qu'en général, Ambroise s'inscrit dans un sillon bien tracé des critiques, non pas de l'emprunt en tant que tel, mais du prêt à intérêt. À un moment donné, Ambroise parle, pour ainsi dire, à la première personne. Donc, dans son commentaire au livre de Tobia, il parle à la première personne. Donc, il relate son expérience, son point de vue sur le présent. Il rapporte un phénomène qu'il a expérimenté de première main, semble-t-il, probablement lorsqu'il était gouverneur d'Émilie Ligurie, en Italie, à Nonnerre, ou peut-être quand il était avocat, métier qui impliquait une très bonne connaissance du droit. Combien de fois ai-je vu des créanciers tenir des morts en gage et refuser l'enterrement, pendant qu'ils exigent le règlement du prêt? Je leur ai volontiers permis de retenir les débiteurs, car une fois qu'ils ont choisi de s'en prendre à lui, le garant, fideiussor, s'évade. C'est comme ça que fonctionnent les lois de l'emprunt. J'ai donc dit, saisissez votre débiteur et, pour qu'il ne puisse vous échapper, conduisez-le chez vous, enfermez-le dans un réduit, vous qui êtes plus dur que les bourreaux, puisque celui que vous retenez, la prison le refoule, l'exécuteur l'absout. Après la mort, de fait, la prison fait sortir ceux qui sont coupables de délits. Vous, vous les renfermez. Le défunt est absous par la sévérité de loi. Vous, vous le retenez. Certes, le défunt a déjà accompli son sort. Cependant, je ne m'y oppose pas, gardez votre gage. Il n'y a pas de différence entre les funérailles, funus, donc on apprécie ces jeux de mots en latin, pas de différence entre les funérailles, funus, et le prêt à usure, fenus. Minimi est la différence entre la mort, mors, et le capital donné après, sors. Résonne le hurlement funèbre, funèbre, de l'usure du prêt, fenoris. Celui que vous poursuiviez est maintenant vraiment capite minutus, perdu. Les priver de sa tête. Cependant, liez-le avec des liens encore plus forts, puisqu'il ne sent pas vos ligatures. Le débiteur est dur et raide, et maintenant, il ne peut plus rugir. Il y a pourtant une chose que vous n'avez pas à craindre, il ne pourra pas vous demander de la nourriture. J'ordonnais alors l'enlèvement du corps et de conduire le cortège funèbre à la maison du créancier. Mais, de là-bas, les gémissements de ceux qui étaient dans la maison retentissaient encore. Là, on pouvait vraiment croire qu'il y avait des funérailles, qu'on pleurait les morts, et l'on ne se trompait pas. À ceci près que c'était comme s'il y en avait plusieurs qui étaient sur le point de mourir. Donc, ce ne sont pas les parents du mort, mais ce sont les créanciers. Ils sont plusieurs qui craignent la mort de leur créance. Enfin, vaincu par la coutume religieuse, le créancier demande que la dépouille soit transportée à l'endroit du tombeau. Ce n'est qu'alors que j'ai perçu l'humanité des créanciers, ce qui m'a affolé, mais je me suis dit qu'il fallait se soucier de leur humanité, afin qu'ensuite ils ne se plaignent pas d'avoir été escroqués, jusqu'à ce que, pliant le cou sous le cercueil, ils portent eux-mêmes le défunt dans la tombe, pleurant ainsi avec davantage de douleur la perte de leur argent. Alors, on ne sait guère par où commencer pour commenter ces passages. L'analyse la plus fouillée a été rédigé par une excellente collègue italienne, Maria Luisa Navarra. Alors, d'une certaine manière, il est simple qu'on devrait l'être une homélie, ce passage simple, c'est une homélie destinée à un public large, même populaire. Le sens ultime est que lorsque vous vous mettez entre les mains du jury, il n'y a pas d'échappatoire, même après la mort. C'est une condamnation sans appel de ceux qui prêtent usure, mais c'est aussi un avertissement de ne pas emprunter, car les risques sont graves. Si tel est le contenu, en revanche, c'est un texte riche en figures rhétoriques, en paronomases, en métaphores. Est-il serré, métathèse, serait longue de les relever une à une. Donc, soulignons deux choses fondamentales. Première, Ambroise atteste une horrible pratique qui consiste à s'emparer des cadavres des débiteurs pour faire pression sur les héritiers. Seconde, récit de cette pratique retracée par Ambroise à l'aide d'un lexique juridique dense, très dense. Alors, commençons par le premier point, la pratique de s'en prendre au corps du débiteur défunt. Alors, ma première réaction, je pense aussi la vôtre, serait de qualifier ce récit de farfelu, un de ces récits quelque peu effrayants, exagérés, à laquelle la prédication chrétienne a souvent recours. Je dirais cela s'il n'y avait pas un document exceptionnel, une constitution de Justin, le prédécesseur de Justinien, près d'un siècle et demi plus tard, donc en 526, qui confirme le récit d'Ambroise, et d'ailleurs ce n'est pas le seul document de ce genre. La réalité dépasse donc l'imagination. Par cette loi, Justin prend des mesures très fermes contre cette pratique qui était donc réelle, répandue et même persistante. Alors, lisons rapidement cette loi adressée au préfet de la ville de Constantinople. « Il est injuste et une honte pour notre temps que les restes des défunts subissent des injures de la part de ceux qui s'opposent à leur inhumation, en se prétendant créanciers du défunt et en exigeant la dette. Pour empêcher que l'avenir, la même injure se reproduise et que ceux qui sont obligés de rendre aux défunts leur dernier devoir ne soient pas forcés de sacrifier leur bon droit, nous retranchons tout effet à tout ce qui sera fait avant que le défunt ne soit conduit au tombeau. » Donc nous retranchons tout effet à tout acte juridique conclu avant que le défunt ne soit conduit au tombeau. Par exemple, exaction de ce qui est dit être dû, ou reconnaissance de dette, ou dation de gage. Que l'argent qui a été payé soit rendu, que les gages soient libérés, en général, que tout soit remis en état sans aucune innovation, et que la cause portant sur l'existence de la dette soit examinée par les juges à partir de la situation d'origine. Donc, après annulation de tous les actes successifs. En outre, celui qui se rendra coupable d'un tel crime devra payer 50 livres d'or ou, s'il n'est pas en état de les payer, le juge compétent lui fera purger sa peine avec son corps. Alors, la loi est claire, elle dénonce les mêmes pratiques évoquées un siècle et demi avant par Ambroise. Les créanciers bloquent les funérailles des débiteurs et font pression sur les héritiers pour obtenir le paiement, ou des gages, ou au moins des documents reconnaissant la dette. Tous les actes auxquels Justin ôte tout effet, notez l'expression « amputari »,« amputé », amputari, donc mutilé, retranché. On voit bien qu'on est dans un lexique corporel, mais appliqué au langage juridique, aux effets des actes juridiques. Il en va de même pour la disposition finale qui impose une peine de 50 livres d'or à quiconque se rend coupable de telles pratiques. L'empereur ajoute que si le délinquant n'a pas la capacité de régler l'amende, il paiera de son corps. Il s'agit presque d'une loi du talion. Celui qui se venge sur le corps du débiteur insolvable sera puni dans son corps. En somme, le langage figuré s'infiltre aussi dans les lois et se fait norme. Alors, nous pouvons revenir à Saint-Ambroise vers 389 et n'ayant compris que les pratiques répugnantes dont il parle existaient bien, étaient aussi répandues. Attardons-nous maintenant sur le texte car il nous donne un exemple de l'influence. C'est ça le point. Exemple de l'influence du langage juridique sur un autre genre de discours, l'homélie chrétienne. Alors, nous voyons ici qu'Ambroise s'est mis dans la position d'un prêteur ou d'un gouverneur de province, donc du magistrat qui administre la justice, qui permet aux créanciers de prendre possession du corps du débiteur défunt. Alors, la première remarque d'Ambroise est qu'en agissant comme ça, une fois qu'ils ont choisi de s'en prendre à lui, le garant s'évade. C'est vrai, si l'on choisit d'agir contre l'un d'entre eux, c'est-à-dire les débiteurs ou les garants, les autres sont libérés. On parle de solidarité passive alternative, élective. Les poursuites engagées contre l'un des débiteurs empêchent le créancier d'agir contre les autres. Le principe a été abandonné en droit moderne. Évidemment, nous sommes ici à la limite du paradoxe ou de l'absurdité, car les créanciers n'agissent pas contre le défunt, ils s'emparent de son corps. Donc c'est une image. Mais Ambroise mélange continuellement les deux dimensions pour pouvoir développer son allégorie. Alors, je voudrais vous montrer à quel point cette considération d'Ambroise suit parfaitement le droit romain, même dans les mots. Voici une constitution de l'empereur Alexandre Sévère de 230 qui dit « C'est un point de droit qui n'a pas d'ambiguïté. Si on choisit le débiteur et qu'il paye, le fideiussor, le garant, est libéré. » Alors, c'est exactement ce que dit Ambroise. Et remarquons l'expression technique « electo eo », une fois choisi le débiteur, qui se retrouve dans les deux textes, mais aussi le choix métaphorique d'Ambroise. Parce que le texte juridique parle de libération, c'est le mot technique pour impliquer que le garant ne va pas est libéré de son obligation. Tandis que lui, il parle d'évader. Donc la signification est la même, mais on voit très bien cette idée de quelqu'un qui est retenu, qui est emprisonné et qui s'évade de cette position. Alors, on voit très bien, disons, le rapport entre le droit romain et cette allégorie d'Ambroise et après tout, c'est Ambroise lui-même qui le dit, parce que il dit c'est comme ça que fonctionnent les lois de l'empreinte. Donc il le dit, il est en train de suivre le régime juridique du prêt à usure. Mais ça c'est un point très important de méthode. Il faut bien se comprendre, le langage juridique est précis et offre à Ambroise la structure propice pour créer l'effet paradoxal, voire, comme nous le verrons, grotesque. Mais Ambroise n'y décrit pas un procès réel. Il ne faut pas, donc pas s'étonner des incohérences, même des aspects erronés, qu'on retrouve dans son allégorie. Il faut bien saisir le statut littéraire du texte et l'interprète doit trouver la bonne distance, ce qui n'est pas toujours le cas. Le texte est juridiquement structuré, mais il s'agit d'une déformation volontaire du droit. Alors, lire cette homélie au pied de la lettre, c'est un peu comme prendre au sérieux l'épisode de la bilocation d'Ambroise. Vous voyez ici, c'est Grégoire de Tours qui en parle dans son traité sur les vertus de Saint-Martin. Vous voyez, donc l'épisode, c'est que Saint-Ambroise célèbre la messe à Milan et au même moment, les obsèques de Saint-Martin à Tours. Et c'est la scène qui est représentée dans l'abside du XIe siècle de la basilique de Sant'Ambrogio à Milan. Ma ville maternelle. À gauche, l'enterrement de Saint-Martin avec la présence d'Ambroise. Et à droite, Saint-Ambroise somnolent célébrant la messe. Mais on ne le voit pas dans cette image, mais bon, dans l'abside, on voit à droite le Saint-Ambroise somnolent célébrant la messe à Milan. Donc, il faut comprendre aussi le texte que nous sommes en train de commenter comme un texte littéraire où il y a une déformation de la réalité. Alors, Ambroise se met donc dans la position d'un prêteur ou d'un gouverneur de province qui permet aux créanciers de prendre possession du corps du débiteur décédé. Alors ça, on l'a compris, son récit est vu du point de vue d'Ambroise lui-même qui prend la position du prêteur, disons, de celui qui administre la justice. Et dans un premier temps, c'est les textes en blanc ici, Ambroise souligne que le traitement du débiteur par les créanciers est plus cruel que celui des prisonniers. Ambroise se réfère ici à un autre principe, cette fois-ci non pas droit civil mais droit criminel, qui stipule qu'avec la mort du délinquant, le crime s'éteint et que les poursuites contre lui cessent. En somme, au sens figuré et même réel, la prison est ouverte pour laisser sortir l'accusé décédé. Les créanciers qui s'acharnent sur les corps du défunt en leur étonnant sont donc pires que des bourreaux et des geôliers. Mais ce qui est pour nous plus intéressant est de revenir sur la procédure qu'Ambroise dessine, marqué en rouge, il s'adresse aux créanciers et c'est comme s'il les mettait au défi d'aller jusqu'au bout de leur démarche. Saisissez-le, amenez-le chez vous, enfermez-le dans une chambre, mettez-lui des chaînes et puisque les débiteurs raides et durs, cela va de soi, les morts ne semblent pas souffrir du poids des chaînes, resserrez-les. Alors, tout exprimé avec un lexique truffé d'expressions juridiques, ducere, nexibus alligare, donc j'ai souligné en bleu, nexibus alligare, vincula, et on arrive jusqu'à réactiver la figure de la capitis diminutio, en jouant sur le fait que la capitis diminutio est une figure juridique, mais dans ce cas, il s'agit d'un débiteur qui est mort. Donc c'est dans une situation d'une certaine façon physiquement comparable à celle juridique de la capitis diminutio. Or, vous savez, il m'arrive souvent dans mes cours de me tourner vers vous et de vous dire « je suis sûr que vous avez compris ». Et je l'ai fait encore maintenant. Au fur et à mesure que nous progressons dans notre lecture, vous avez certainement vu et compris quel modèle Ambroise avait à l'esprit lorsqu'il façonnait son allégorie. Oui, vous avez compris, c'est la Manus Injectio, selon les normes des douze tables, ou, ce qui revient à dire presque la même chose, les règles de l'édit du prêteur, qui étaient calquées sur la loi des douze tables. Donc je parlerai pour la suite principalement des douze tables. Alors, considérons le cadre. Ambroise lui-même agit comme les prêteurs, on l'a dit. Au début, il remet le corps du débiteur au créancier. On pourrait dire qu'il le leur adjuge. Il fait l'addictio, donc le corps du débiteur est addictus au créancier. Puis, il suit pas à pas le chemin des douze tables. Utilise même l'impératif comme s'il s'agissait d'une loi. Les créanciers doivent saisir le débiteur, c'est proprement la manus injectio. Ils l'amènent chez eux, l'emprisonnent dans une pièce, puis le chargent de chaînes. Et nous en arrivons au point final de cette confrontation qui nous la dévoile sans équivoque. Vous souvenez-vous de ce que disaient les douze tables? Que le débiteur emprisonné chez son créancier peut se nourrir lui-même, sinon il peut demander au créancier de lui fournir des rations alimentaires pour survivre. Ambroise dit sarcastiquement, il y a pourtant une chose que vous n'avez pas à craindre, il ne pourra pas vous demander de la nourriture. Donc, je pense aussi qu'on l'a compris, la citation des douze tables cachée dans les plis d'une homélie chrétienne de la fin du IVe siècle est un indice précieux, extraordinaire, je dirais même, de la présence de ce monument législatif dans la mémoire culturelle des Romains. Et si c'est en revanche l'édit du prêteur qu'Ambroise souhaite évoquer, cela ne change pas grand-chose, cela démontre la persistance du droit classique dans l'Antiquité tardive. Ambroise passe ensuite à un autre plan, celui des funérailles, c'est la deuxième partie du commentaire, nous allons rapidement la parcourir. Cela lui permet de retrouver une dimension plus religieuse. Vous voyez ici un bas-relief d'Amiternum, en Italie, donc vous voyez le cortège de fin. Et aussi ceux qui pleurent. On va retrouver. Donc, évoquer les funérailles permet à Ambroise de retrouver une dimension plus religieuse qu'il avait déjà auparavant évoquée par des jeux de mots que j'ai souligné, l'assonance entre funus funerae et fenus pré-usuraire, et aussi entre sort, qui est la capitale donnée en prêt, et mort, mors. Le débiteur mort a maintenant accompli son sort, il est mis en parallèle au débiteur qui a rendu le capital, la sort. J'ordonnais alors l'enlèvement du corps et de conduire le cortège funèbre à la maison du créancier, mais de là-bas, les gémissements de ceux qui étaient dans la maison retentissaient encore. Là, personne ne pouvait croire à l'enterrement. Non, pardon. Là, on pouvait vraiment croire qu'il y avait des funérailles, qu'on pleurait les morts, et l'on ne se trompait pas, à ceci près, que c'était comme s'il y en avait plusieurs qui étaient sur le point de mourir. Enfin, vaincus par la coutume religieuse, les créanciers demandent que la dépouille soit transportée à l'endroit du tombeau. Ce n'est qu'alors que j'ai perçu l'humanité créancier, ce qui m'a affolé, mais je me suis dit qu'il fallait se soucier de leur humanité afin qu'ensuite ils ne se plaignent pas d'avoir été escroqués jusqu'à ce que, pliant le cou sur les cercueils, ils portent eux-mêmes le défunt dans la tombe, pleurant ainsi avec davantage de douleur la perte de leur argent. » Bon, pas grand-chose à dire. On sent ici l'indignation morale d'Ambroise, qui jusqu'à présent avait été contenue sous l'allégorie grotesque, paradoxale de la Manus Iniectio. Ici, elle s'exprime plus ouvertement. Seule remarque qui s'impose, il est fait mention à plusieurs reprises des gémissements de deuil accompagnant le déplacement du cadavre vers la maison du créancier. Alors, là encore, Ambroise joue sur le grotesque. Il ne s'agit pas des lamentations, on l'a déjà dit, pour pleurer la mort du débiteur, mais des lamentations pour déplorer qu'il n'ait pas payé sa dette. C'est comme si les créanciers assistent aux funérailles de leurs créances. Mais, ici encore, il y a une allusion, je pense, aux douze tables. Alors, comme nous l'apprend Cicéron dans les traités sur les lois, la loi des douze tables supprime également la lamentation. Donc, il y avait une norme à propos des gémissements et du déroulement des funérailles. Que les femmes ne se déchirent pas les joues, et qu'elle ne procède pas en lessus. Alors, comme le mot lessus, même pour Cicéron, n'était plus compréhensible, Cicéron ajoute cette explication qui reprend d'un érudit de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, Lucius Elius Stilon, c'est cet érudit, grand érudit, pense que lessus sont les cris funèbres, comme l'indique par onomatopée la parole hélas, elle-même. Bref, les douze tables se confirment comme sous-texte de cette sorte de parodie macabre d'un procès et des funérailles mises en scène par Ambroise. Un peu comme Africanus, Favorinus Lugel, attendant d'entrer dans le palais d'Adrien pour le saluer, le temps est venu pour nous de nous dire au revoir. À la prochaine séance qui aura lieu, encore une fois, mardi, pas mercredi, le 7 mai. Il ne nous reste que peu de minutes, deux minutes, pour des remarques conclusives. Dans notre cours, nous sommes en train de rechercher les métaphores qui nourrissent le langage juridique. Dans ce cas, nous avons mis au jour la dynamique inverse. Le droit fournit des métaphores, ou plus largement des allégories, dont se nourrit la littérature non juridique, en l'occurrence l'homilétique chrétienne. Du point de vue de l'histoire du droit romain, ce fait est d'une remarquable importance, comme je viens de le souligner. Il atteste que même à la fin du IVe siècle, les douze tables étaient bien connues et pouvaient constituer le sous-texte d'une homélie que les fidèles étaient censés comprendre. En tout cas, cette homélie atteste l'application de l'édit du prêteur. Donc, preuve supplémentaire, la forte connaissance du droit à l'époque de l'Antiquité tardive contre toute idée de déclin. Façon plus générale, la discussion entre Africanus et Favorinus avait tenté de donner un sens rationnel à la Manus Iniectio, réglementée par les douze tables, et expliquer la cruauté de cette procédure, comprenant le partage du corps comme une sanction purement démonstrative, une dissuasion si forte qu'elle n'avait pas besoin d'être appliquée. La menace suffisait. L'édit du prêteur, d'ailleurs, n'a fait qu'atténuer la cruauté de la procédure exécutive, mais n'a pas vraiment lâché prise sur le corps du débiteur. Et ce n'est pas par hasard que, grâce à l'homélie d'Ambroise et la constitution de Justin, nous nous sommes aperçus que le corps du débiteur ne quitte pas du tout la scène. Il y a des phénomènes qui peuvent peut-être s'expliquer anthropologiquement ou culturellement. Quoi qu'il en soit, chose est sûre, de ce point de vue aussi, nous comprenons que le corps est un élément puissant de l'imaginaire et de la réalité du droit. Et je sais que lorsque nous prononcerons le mot « obligation », peut-être que dans un coin de notre esprit, nous pourrons mieux entendre ce qui signifie réellement. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.